Jean-Brice Garella, bonjour.
Bonjour.
Alors, on est ici dans votre société, le groupe Garella, c'est votre métier, mais vous avez d'autres engagements. Vous avez un engagement politique, un engagement personnel, vous écrivez, vous en êtes déjà à plusieurs recueils de poèmes, mais vous avez aussi participé à une campagne. Alors, votre engagement, quel est cet engagement ?
Disons que pour l'engagement politique, il est essentiellement lié au territoire de la ville de Gardanne, puisque je suis natif, comme toute ma famille, de cette ville. J'y vis, j'y travaille, et donc je pense qu'il y a une logique de s'investir dans le territoire qui vous est le plus proche, surtout s'il vous tient à cœur.
Oui, mais alors vous avez quand même été ce qu'on appelle un patron de gauche, alors que les principales organisations patronales sont plutôt à droite. Comment vous avez vécu ça ?
Ouais, il faut dire que Gardanne est quand même une ville avec un passé ouvrier. Dans ma famille, mes arrière-arrière-grands-parents sont venus pour la mine. Donc nous, notre généalogie est liée à ce monde ouvrier. Ensuite, mes grands-parents, mes parents étaient des artisans, puis artisans industriels. Donc on est quand même très attaché à ce passé et surtout au travail des mains, puisque que ça soit pour la mine, que ça soit pour la couture, que ça soit dans l'artisanat, à chaque fois on va retrouver ce geste et ce labeur qui est quand même fait à partir de femmes et d'hommes qui tous les matins vont se lever et, alors c'est peut-être un peu moins pénible aujourd'hui qu'il y a un siècle, mais vont quand même donner de leur personne. C'est très différent avec des sociétés financières quand on peut appeler le patronat de droite ou ce qu'on appelle le grand patronat, qui fait plus de la finance, qui crée de la valeur, entre guillemets, soi-disant, mais qui est une valeur purement théorique et financière et qui n'est pas un travail manuel avec une transmission d'un savoir, d'une création et même quelquefois, ce qui est le plus beau, d'une passion.
Et l'écriture ?
Puisqu'on parle de passion, ça fait une transition. L'écriture, c'est quelque chose qui permet de s'évader parce que il n'y a pas de plus beau voyage qu'à partir d'une page blanche où tout est permis. Que ça soit dans un engagement politique, il y a des règles, il y a des choses qui sont difficiles à affronter. On aimerait bien les changer, mais on peut se heurter à différents moyens ou groupes de lobby ou autres. Dans l'entreprise, c'est un petit peu pareil. Il y a la loi du marché, on peut pas faire ce que l'on veut, on est obligé de se plier à certaines règles, que ça soit dans la poésie ou dans la littérature, hormis les quelques règles de base, on est totalement libre. Donc ça permet d'avoir un espace de liberté qui est quelquefois salutaire.
Alors cet engagement, qu'il soit dans la cité ou bien dans l'écriture, qu'est-ce qui vous a apporté ?
Disons que j'ai eu un engagement au tout début qui était lié à mon activité professionnelle. J'ai présidé la chambre syndicale de l'habillement à Marseille pendant de nombreuses années, puis la cité euro-méditerranéenne des métiers de la mode, puis la maison méditerranéenne des métiers de la mode. Et à chaque fois, alors c'était très, très agréable et très passionnant, mais je restais dans mon métier d'origine. Donc c'était transmettre, là par exemple avec l'université, on va recevoir des classes comme chaque année. Je donne aussi des cours à l'université pour transmettre un petit peu les métiers de la mode, mais je reste dans mon environnement, on va dire, d'origine. C'est vrai que lorsque vous passez sur un engagement politique, vous êtes amené à toucher à tous les sujets de la société, que ça soit l'éducation, que ça soit le sport, que ça soit la culture, que ça soit l'économie, que ça soit la sécurité. Donc c'est beaucoup plus riche. Si on est un petit peu curieux et si on aime s'intéresser aux choses, le champ d'application est déjà beaucoup plus large. Donc pour moi, ça a été une passion. Donc à la fois un attachement de cœur à la ville de Gardanne, au territoire de la Provence, et puis ensuite une curiosité de tous ces domaines en se disant est-ce qu'on pourrait pas un petit peu améliorer les choses ? Et lorsqu'on vient du milieu, on va dire, économique, c'est vrai qu'on peut voir les choses autrement que des professionnels de la politique, même s'il y en a de moins en moins des professionnels de la politique, mais qui ont un autre œil, un autre regard, une autre façon d'appréhender les choses. Je ne vais pas dire carriériste, mais plus dogmatique. Nous, avec le regroupement que nous avions, on essayait surtout de faire avancer les choses pour le bien-être de la population qui vit ici.
Oui, mais alors pour les municipales qui vous ont opposé au maire sortant, Roger May, vous avez eu un différend, vous avez eu un avocat, vous êtes rentré dans le domaine de la chicane, non ?
Non, alors pas de la chicane. Bon, après, on sait qu'en politique, c'est un combat. Hein. Qu'on le veuille ou non, à un moment, il y a une élection, on la gagne ou on la perd. Donc ça, on est obligé de passer par là. Après, si vous voulez, c'était des points de vue totalement différents et opposés. À un moment, pour moi, ma vision des choses, c'est, moi, je suis pour l'émancipation des gens. On peut les aider, on doit les aider, c'est un devoir de les aider, mais on doit les aider à s'en sortir. On ne doit pas les aider à rentrer dans un système où, en gros, on va vous expliquer que on va vous subventionner pour l'école, pour l'appartement, pour ça, c'est bien pour donner un coup de pouce. Pour apporter un élan au départ. Mais si ça devient un mode de gestion, si ça devient une façon de faire, les personnes vous sont redevables. Alors certains vont appeler ça, je le mets entre guillemets, du clientélisme, parce qu'on est obligé de venir voir ces élus pour demander des choses, demander, voire quelquefois quémander. Et moi, je trouve rien de plus horrible que d'avoir la main sur la vie de personnes. En fait, il faut que les gens s'émancipent, il faut leur donner les moyens de réussir leur vie. Donc, c'est ça qui nous opposait. D'un côté, on a une façon de faire qui est peut-être un petit peu empirique, qui est ancienne, où on va aider les gens, mais il faut créer les conditions aussi pour qu'ils puissent s'en sortir. C'est-à-dire que non seulement il faut les aider, mais il faut un projet global pour avoir les moyens de les aider. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir recréer de la richesse, recréer de l'emploi sur le territoire. Il faut avoir une vision à 5, 10, 15, 20 ans. Il faut remettre en valeur les sites culturels. Il faut pouvoir redynamiser le commerce de centre-ville. Bon, je vais arrêter parce que sinon je peux vous en parler pendant une heure. Mais c'est tous ces moyens. Moi, j'ai dit, c'est un écosystème en fait. Donc, tout est imbriqué, tout est lié. La sécurité est liée à l'économie, l'économie est liée à la culture est liée à l'éducation, etc. Pareil avec les associations, pareil avec le sport. Donc c'est vrai que là où ça devient passionnant, c'est que vous avez accès à tous ces secteurs, et puis après, bah, il faut s'y jeter à bras le corps, et puis voilà, faire des propositions. Et puis bon, malheureusement, à 69 voix, la première élection, les Gardanais ont préféré réélire le maire emblématique de la ville. Bon, bah, c'est dommage, parce que, encore une fois, les promesses n'ont pas été tenues, les engagements ou les projets mettent beaucoup de temps à venir. Bah, je pense que nous, avec une nouvelle énergie, on aurait pu faire mieux et plus vite.
Vous avez été un candidat de la société civile, vous êtes un représentant de la société civile, comme on dit, Aurora Gardane. On connaît bien deux énormes problèmes, à la fois Alteo avec ses rejets liquides qui ont été solides dans la Méditerranée, et puis la centrale Eon qui menace les forêts et qui doit fonctionner à partir de déchets verts. On parle quand même dans ces cas-là de la pression sur l'emploi, donc des lobbies que représentent ces industriels. Comment est-ce que vous, de la société civile, vous pouvez être de taille?
Bah écoutez, de toute façon, l'expérience va nous le dire. Moi, j'ai connu, il y a un peu plus de 20 ans, le maire dire « la mine ne fermera jamais ». Et puis la mine a fermé. Qu'est-ce qu'on avait préparé? Qu'est-ce qu'on avait anticipé? Rien. On est allé jusqu'au bout. On a fait du jusqu'au boutisme. C'est vrai qu'on aurait pu préparer la transition sur la mine et l'après-mine et la réindustrialisation du bassin minier. Ça n'a pas été fait. Ça a été un drame. Ça a été un drame social pour les personnes qui se sont retrouvées sans emploi. Et ça a été un drame pour la ville de Gardanne, qui, vous savez qu'à l'origine, la ville de Gardanne était une des villes de France où il y avait le plus d'ingénieurs. Avec la mine, la centrale thermique et à l'époque Alteo qu'on appelait Péchiné. Donc c'était une ville riche de son savoir, de son patrimoine industriel et des personnes qui y travaillaient. Donc on a vécu ce premier drame avec la mine, rien n'était préparé. Aujourd'hui on sait que Alteo et la centrale sont soumis à des autorisations préfectorales ou nationales où un ministre peut à tout moment stopper cette activité. Donc nous, on est pour la transition écologique et la transition énergétique. Ça veut dire, dès à présent, commencer à travailler avec les personnels de ces structures, à aller sur des procédés. Gardanne est une ville industrielle et pour nous, elle doit rester à caractère industriel. C'est son savoir, c'est sa vocation industrielle et sur l'énergie. Donc il y a des énergies du futur. Il faudrait que ces structures-là commencent à développer, sous l'impulsion de la municipalité, une nouvelle façon de créer de l'énergie. On a les personnels dans ces entreprises qui sont compétents, qui sont sur place, qui ont des choses encore à apporter à la société. C'est quand même à la commune de créer cette possibilité et non pas de faire de ça un combat politique en disant non, ça ne fermera jamais, alors qu'on sait très bien qu'à tout moment, un ministre ou un préfet peut signer un arrêté d'exploitation.